On va interrompre la série sur la Genèse. J'aurais pu parler du déluge ce matin. Ça aurait été d'actualité. Notre véranda a été inondée. Mais ça va, on s'en sort. Mais non, j'ai pensé qu'après une présentation, on pouvait peut-être parler un petit peu de l'éducation des enfants, parce que c'est sympa les présentations, mais après la présentation vient l'éducation. Et vous voyez les images, c'est pas toujours une sinécure. Parfois on voit des mamans avec des cernes sous les yeux, des papas avec des joues creusées, avec des cheveux blancs prématurés. Et il semble que l'éducation, oui, ne va pas de soi, hein, que c'est, ça peut être fatigant. Bon, là, Marie et Emilia ont 2-3 ans. Enfin, 2-3 ans, c'est pénible, hein, c'est l'époque du non, hein, du non sans raison. Mais on pourrait imaginer Emilia et Marie à 14-15 ans. Ce serait bien de revoir Diego et Claudia et Arnaud et Sophie dans 10 ans, quand leurs filles auront 14-15 ans. Alors oui, c'est difficile. Mais en même temps, l'éducation des enfants, il ne faut rien exagérer. Il y a pas mal de personnes qui sont passées avant nous. Et puis, il s'agit d'une joie et d'un super défi, un défi qui donne du relief à la vie, du ressort, du suspense même, et aussi du sens à la vie, l'éducation des enfants. À la fois donc une responsabilité qui peut sembler lourde, mais aussi une belle aventure. Bon, j'ai quelques diapos qui montrent qu'au début ça peut être super chouette et puis qu'après ça peut être compliqué. Que l'adolescence, c'est une autre histoire. J'aime bien le doigt levé. Et l'adolescent qui a l'air d'être vraiment à des années-lumière de ce que dit sa maman. Mais que dit la Bible sur l'éducation des enfants? On sait que la Bible n'est pas un livre de recettes, qu'il ne s'agit pas de comment réussir l'éducation de votre enfant en 3 jours. Elle ne fait pas dans le coaching non plus, mais elle n'est pas non plus déconnectée des réalités du quotidien. Elle est parole de vie éternelle, mais aussi elle est parole de vie quotidienne, la Bible. Il y a dans la parole de Dieu des paroles à prendre pour sa relation avec son enfant et surtout peut-être un état d'esprit à transmettre. On l'a dans l'Ancien Testament, et on ne l'a pas lu tout à l'heure dans la présentation, mais on aurait pu, ce passage du Deutéronome où il est dit d'inscrire les commandements de Dieu sur les linteaux de la porte d'entrée. Tu en parleras chez toi, dans ta maison, inscris-les sur les poteaux de ta maison. Comme ça, ces commandements de Dieu, on les voit en entrant et en sortant de la maison, dans la vie quotidienne, l'éducation dans la vie quotidienne. Et j'ai inscrit « passeur de foi au quotidien, dans la maison, on passe sa foi ». On passe pas seulement, et vous me direz c'est déjà pas mal, mais j'insiste là-dessus, on ne passe pas seulement des principes de vie, on ne passe pas seulement des valeurs, même si elles sont chrétiennes, on essaie en tout cas de passer la foi, une relation vivante avec Dieu, et pas une lettre morte, pas juste des valeurs ou des principes, ce qui est déjà pas mal, me direz-vous. Mais il me semble, quand on lit le Deutéronome, qu'on parle d'une relation de tout cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et tu transmettras cela à tes enfants. Des passeurs de foi au quotidien, pas juste des passeurs de principes. Et puis il y a le livre des Proverbes, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais il y a tout un tas de versets sur la sur l'éducation des enfants avec un verbe qui fait mal, c'est le verbe corriger. Mais Proverbe 22:15, la folie est entachée au cœur de l'enfant, le bâton de la correction l'en éloignera. Bon. Parlons un petit peu de la folie. De quelle folie s'agit-il? Eh bien, c'est un petit peu la même folie que dans Genèse 3, vous savez, on l'a vu, le péché originel. La folie attachée au cœur de l'enfant, c'est la folie de l'enfant roi. C'est la folie de penser qu'il peut se passer de ses parents, de toute limite, de toute autorité, de tout cadre pour la vie. La folie de penser qu'il peut être sa propre loi, c'est-à-dire autonome. Enfin, on fait tout pour qu'il puisse être autonome, mais dans le sens littéral du terme, être sa propre loi. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Alors, le bâton de la correction. Si on pense que la correction peut être pensée comme étant une rectification, je trouve qu'elle passe mal. Elle passe mieux. On est là, les parents sont là pour aussi rectifier le tir et dire à leur petit bambin de 2-3 ans, « Eh non, mon ami, tu n'es pas l'enfant roi, tu n'es pas le roi, ni de la famille, ni de la planète. » Je crois que c'est important de rectifier le tir de l'enfant qui se croit roi et qui est fou. Dans le Nouveau Testament, on a peu d'éléments sur l'enfance de Jésus. On a l'impression que Jésus était très libre. À un moment, il fugue même et il va au temple pour discuter avec les intellectuels de l'époque. Mais en même temps, après, ce qui est intéressant, il revient librement à la maison et il nous est dit qu'il obéissait à ses parents. Et le temps qui est utilisé en grec, là, nous dit qu'il s'agit d'une action, l'obéissance régulière. Il obéissait à ses parents, comme il l'a fait toujours. Pas des actions sporadiques d'obéissance, mais une attitude d'obéissance. Et on pourrait résumer l'éducation de Jésus par trois mots, liberté, confiance et obéissance. Je ne sais pas comment Marie et Joseph ont fait. Je ne sais pas non plus si l'exemple de Jésus est véritablement normatif, mais on peut peut-être s'en inspirer de ces trois mots, liberté, confiance et obéissance. Et puis, il y a dans un petit livre que vous connaissez bien, puisqu'on a fait une série dessus, sur Colossiens, et Sophie a lu tout à l'heure Éphésiens, je crois, qui lui est très proche. « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur, mais vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. » Colossiens 3, 21. Alors il faut bien se rappeler que ces versets de Colossiens ne sortent pas de nulle part, ce sont des recommandations pratiques qui viennent après deux chapitres où Paul va faire, dans Colossiens, vous vous souvenez, j'espère, de la théologie positionnelle. On en a longuement parlé quand on a vu l'épître, et cette théologie positionnelle qui a son apogée au chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous êtes bien positionné en Jésus-Christ. Votre identité est solidement posée en Jésus-Christ, dans son amour, dans la valeur que vous avez à ses yeux, dans sa grâce. » Ainsi, à partir de là, vous pouvez avoir des relations renouvelées dans votre couple, avec les autres, même Colossiens parle de la relation avec le patron, avec l'employeur, dans le monde du travail, on va dire. Et puis, il parle de cette relation avec les enfants et de relation des enfants avec leurs parents. C'est quand on est, donc il s'adresse à des enfants chrétiens et à des parents chrétiens. Vous êtes bien en Christ, vous êtes bien positionné en Christ, vous pouvez avoir des relations renouvelées avec ceux qui vous entourent, dans la famille, dans le couple et dans le monde. Et c'est important de se souvenir de cela pour bien comprendre qu'on n'est pas ici dans un cours de morale. Comment être de bons parents en trois versets? C'est un appel à vivre la famille, les relations dans la famille, en fonction de notre nouvelle identité en Christ. Alors nous n'allons pas trop discuter de cette première recommandation de Paul qui s'adresse aux enfants et qui leur suggère d'obéir à leurs parents. Il reste quelques enfants, pas trop. Oui, des grands enfants là. Mais il donne une raison spirituelle, car cela est agréable au Seigneur. Parce que l'obéissance aux enfants, on la retrouve dans toutes les morales de l'époque et chez les stoïciens, par exemple. L'école stoïque, hein. Mais cette référence au plaisir de Dieu change tout, et elle montre aussi que Paul s'adresse à des enfants chrétiens, car ça fait plaisir au Seigneur. Et il y a plein de bénédictions qui en découlent. Et Sophie en a parlé tout à l'heure. On remarque aussi, et je crois que c'est important, que Paul ne demande pas aux parents de se faire obéir. Faites-vous obéir par vos enfants, que diable ! Non, il ne le dit pas. Il ne leur demande même pas d'exercer une autorité sur leurs enfants. Et de même, quand il parle du couple, il dit, et là je vais encore lancer un mot qui fait mal, il dit aux femmes, soyez soumises à votre mari, mais il ne dit jamais au mari, mari, soumettez vos femmes. Et encore, on pourrait discuter hein, aussi du verbe soumettre. Moi, j'ai des choses à vous dire, mais ce sera une autre fois. De même, au mari d'aimer leur femme, mais il ne dit pas « faites-vous aimer de vos maris ». À chacun sa responsabilité. Et il ne faut pas que la responsabilité de l'un devienne l'exigence de l'autre. Paul s'adresse aux enfants chrétiens, il dit « obéissez à vos parents ». Ce n'est pas aux parents de dire « tu dois m'obéir parce que la Bible le dit ». De même, la femme ne doit pas dire à son mari « tu dois m'aimer parce que la Bible le dit ». Ou le mari ne doit pas dire à sa femme « tu dois m'être soumise parce que la Bible le dit ». C'est désastreux ça. C'est désastreux. À chacun sa responsabilité, à personne ses exigences. On va revenir sur Colossiens 3:21, à l'adresse des parents. « Mais vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants. » Et dans d'autres versions, on a « Parents, ne provoquez pas vos enfants, ne les rendez pas amers. » Une autre version, parole de vie, « Parents, n'agacez pas vos enfants, sinon ils vont se décourager. » Alors il ne s'agit pas d'ici d'un appel à la démission, laissez-les grandir tout seuls, ne pas les embêter, laissez-les tranquilles, etc. Mais c'est un appel surtout au dosage, avec l'effet enclume. Le dosage. Parce qu'il semble que des parents ou des pères, surtout avec quelques problèmes dans ce domaine, à l'époque du Nouveau Testament, et pouvait passer du simple exercice de l'autorité à l'autoritarisme, du rôle de chef de famille responsable à celui de despote plus ou moins éclairé. Et il faut savoir que la loi romaine, dite la loi des 12 tables, accordait au père le droit de vie et de mort sur ses enfants, et qu'il pouvait, s'il le voulait, les réduire à l'esclavage. Sympathique quand même. Tu m'embêtes ? Tu finis pas ta soupe ? Bon bref. Et on ne s'embarrassait pas de détails à l'époque, et il est probable que certains parents de l'église de Colosse avaient peut-être la main lourde par rapport à leurs enfants. Mais parce qu'ils sont devenus chrétiens, ces parents de Colosse, qu'ils sont nouvellement positionnés en Christ, les choses changent, les choses doivent changer. Quand nous habitions Fontainebleau, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais mon père travaillait à l'OTAN. Elle a travaillé toute sa vie à l'OTAN, pratiquement. Et dans les années 70, il est même raconté l'histoire de ce colonel de l'armée américaine, parce qu'il y avait des colonels américains à Fontainebleau, et qui avait 3 fils. Et moi, ça m'a impressionné, cette histoire. Je m'en souviens encore 50 ans après. Et ce colonel américain avait l'habitude, à chaque anniversaire de ses garçons, de leur donner leur âge en coups de ceinturon. C'est comme ça, ça rentre. Alors à 4 ans, ça va. À 16 ans, c'est un petit peu compliqué. Joyeux anniversaire, Bill. Joyeux anniversaire, Bob. Alors ce système tanne peut-être le cuir, mais question dosage, on n'est pas sûr que ça soit tout à fait indiqué. Et on peut imaginer le sentiment d'injustice et même la révolte dans le cœur de Bill et de Bob. Alors les Américains aiment la ceinture. Mon père, c'était la règle plate. Et chez les Français, c'était le fameux martinet. Ça m'a toujours fait peur, qui ressemblait à un instrument de torture. C'était affreux, ça. Le dosage est important. Il ne faut pas décourager les enfants. On ne veut pas qu'ils perdent leur cœur, n'est-ce pas ? Parce que le plus important, c'est le cœur de l'enfant. Et il y avait à l'époque, non pas à la même époque, il y a une vingtaine d'années, un titre d'un livre écrit par un pasteur et un directeur d'école américain qui s'intitulait « Un berger pour son cœur ». Un bon livre pour les parents qui s'intéressent pas seulement à comment leur enfant se tienne à table ou à leur réussite scolaire, mais à l'état de leur cœur. Et qui appelle les parents à devenir des bergers, des pasteurs pour le cœur de cet enfant, pour qu'ils deviennent non pas des petits pharisiens qui obéissent comme il le faut à toutes les règles, mais qui ont en douce, enfin, à l'intérieur, un cœur désabusé, un peu pourri. Comme dit Jésus, qui ont l'extérieur du plat bien propre, reluisant, poli, qui ont les bonnes manières, mais à l'intérieur, il y aurait beaucoup de haine et pas mal d'orgueil aussi. Notre désir, n'est-ce pas, parents, c'est que nos enfants développent un cœur bien équilibré et qui soit pour Dieu, un cœur rempli de son amour et de sa grâce. Et il ne faut pas qu'ils le perdent ce cœur au cours de leur éducation. Je ne sais pas pourquoi je suis ému, je pense à mes enfants là tout d'un coup. Et on n'a pas toujours tout réussi avec nos enfants, mais vous le verrez. Alors pour ne pas les décourager, pour ne pas qu'ils perdent leur cœur dans leur croissance, nos enfants, j'ai fait une petite liste des choses à éviter et des choses à faire pour ne pas irriter nos enfants ou pour ne pas les décourager. Nos enfants de tous les âges, et je commence par quelques formules négatives, enfin des choses à éviter. Pour ne pas décourager les enfants, il faudrait éviter de punir injustement. Et parfois on punit injustement pour protéger son confort ou parce que sa fierté de parent a été touchée. Et quand on punit injustement ou pour ces raisons-là qui ne sont pas valables, l'enfant le ressent et ressent comme une injustice. Ne pas multiplier non plus les règles, ça décourage les enfants. Quand les règles sont sans fin, il faut pouvoir, en tant que parent, s'en tenir à des choses importantes que l'on pourra vérifier, sur lesquelles on pourra tenir le long terme. Et à deux, si dans la famille il y a papa et maman. Parce que trop de règles, ou de règles qui bougent, nuisent à la santé et à celle de la famille. Il ne faut pas pinailler sur une multitude de règles, et il faut choisir ses combats en tant que parent, pour ne pas décourager les enfants. Et puis, il ne faut pas non plus menacer sans fin, sans jamais punir, multiplier les menaces. Si tu continues, gare à toi. Et rien n'arrive. Quand on menace d'une correction ou d'une punition, il faut la donner. Et si on ne peut pas la donner, il ne faut pas menacer. Les menaces sans résultat minent l'autorité et fatiguent l'enfant. Et fatiguent tout le monde aussi, d'ailleurs. Ne pas changer les règles en fonction des situations. Si parce qu'il y a des invités, les règles changent, l'enfant se trouve un petit peu perdu et il aura du mal à saisir la cohérence de l'ensemble. Il se décourage et il perd son cœur. Ne pas non plus réprimander en public, devant des tiers, devant les copains et les copines, devant les cousins et les cousines. Si on réprimande devant des tiers, c'est humiliant pour l'enfant. Ça brise son cœur. Et surtout que cette humiliation vienne de ses parents. Et il ressent comme une grosse déception, en tout cas, peut-être même une trahison. Devant les autres, ils m'ont trahi. Faisons attention de ne pas réprimander en public. Et maintenant, quelques conseils dans une forme positive. Montrer l'exemple. Ben oui, vous savez, Albert Schweitzer disait, il y a trois manières d'enseigner les enfants. La première, c'est l'exemple. La deuxième, c'est l'exemple. La troisième, c'est l'exemple. C'est l'éducation indirecte, silencieuse. On ne parle pas directement à l'enfant, mais l'enfant entend ce qu'on dit aux autres. Et il prend exemple, il voit ce que l'on fait. Et quand j'étais un jeune papa très maladroit et très peu mature, quand j'y pense, j'avais 25 ans, on est très jeune. Mais j'ai été frappé parce qu'un pasteur avait dit « La meilleure chose qu'un père puisse faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. » Moi, j'aime toujours beaucoup mon épouse, mais parfois, je pouvais un petit peu être rude. Et ça m'a fait... Ah ouais, la meilleure chose que je peux faire pour mes enfants, c'est pas de leur apprendre à jouer au volley, à faire du ski, ce que j'ai fait quand même, mais c'est d'aimer leur mère et de leur montrer par l'exemple comment on aime une femme. Je parle pour mes fils, mais comment on traite une... Ah ouais, et ça m'a remis. Et cette phrase dite par un pasteur m'a corrigé dans le sens de rectifier, à rectifier le tir. Oui, il y a beaucoup à faire au niveau de l'exemple, c'est de l'exemplarité. Ça peut être humiliant, enfin, ça peut être compliqué, hein, vivre toujours dans l'exemple, 24 heures sur 24 dans l'exemple. Mais il y a le dernier point qui vient. Mais ce n'est pas le dernier, là, leur faire confiance. Alors bien sûr, ce sera une question, ce sera en fonction de l'âge de l'enfant et de son développement, mais il faut saisir les occasions pour leur faire confiance. Et Henri Blocher, l'ancien doyen de la faculté de Vaux-sur-Seine, le disait très justement, l'attitude positive consiste à aller un peu au-delà des preuves données par l'enfant qu'il est digne de confiance. Je récapépète parce que c'est du Blocher. L'attitude positive consiste à aller un peu au-delà des preuves données par l'enfant qu'il est digne de confiance. D'ailleurs, c'est-à-dire lui faire confiance... pour un peu au-delà de ce qu'il est digne de confiance. C'est-à-dire le tirer un petit peu vers le haut, en disant « Oh là là, je lui fais confiance pour ça, je ne suis pas sûr que je pourrais, mais je veux le faire. » Parce que en lui montrant que j'ai tellement confiance, il va se dire « Waouh, mes parents, ils ont confiance en moi. Eh bien, je vais y aller. » Vous comprenez ce que je veux dire? Ainsi, l'enfant se sent appelé à être digne de confiance. Quand on fait confiance à son enfant, l'enfant se sent aspiré à rendre la confiance qu'on lui offre. Il y aura peut-être des déceptions de ci, de là, peut-être qu'on a placé la barre un petit peu trop, mais on est dans le long terme avec les enfants. Pour qu'un enfant puisse avoir confiance en lui, confiance en vous, et même, je pense, confiance en Dieu, confiance aux autres, il faut lui faire confiance. Et puis, j'en ai parlé déjà dans la présentation d'enfants, aimer d'un amour inconditionnel. C'est aimer sans suggérer que son amour pour l'enfant dépende de son acceptation de la foi ou de sa marche dans la foi. Cela veut dire de ne même pas le suggérer ou de le laisser entendre, ne pas comparer l'enfant qui ne serait pas encore au Seigneur avec ceux qui sont déjà au Seigneur. Cet enfant, comme tous les êtres humains de ce monde, a besoin de cet amour inconditionnel que nous recevons tous de Dieu et qui nous permet de vivre cette liberté et cette confiance qui nous permet d'avancer. Aimer d'un amour inconditionnel, cela veut dire aussi d'aimer son enfant même s'il ne réalise pas les rêves que nous avions pour lui. Moi, je rêvais que ma fille devienne championne de volley-ball. Elle revenait du club de volley avec les doigts foulés à chaque fois. Après 6 mois, on lui a dit « Bon, tu peux arrêter, tu sais. » Mais on a tous des rêves et des projections, qu'on le veuille ou non. Le truc, c'est de le savoir. Se dire « Tiens, est-ce que je ne projette pas quelque chose ?» Et de pouvoir peut-être s'en distancier de cette projection, de ce rêve. Un processus, le processus de la projection très connu et qui est quasi inévitable, mais en prendre conscience pour pouvoir s'en dégager afin de laisser le champ libre à l'enfant. Neuvièmement, savoir être dans l'encouragement. C'est évidemment, pour ne pas décourager l'enfant, être dans l'encouragement me semble être un bon principe. Leur donner du cœur pour grandir, leur donner du cœur pour prendre leur envol, leur donner du cœur pour qu'ils puissent avoir des ailes et s'envoler au large. Alors bien sûr, les enfants, ils ont besoin d'une certaine autorité, d'un certain cadre, de points de repère, de limites sur lesquels ils pourront s'appuyer, ce cadre, et trouver une certaine sécurité, mais pour que l'autorité ne soit pas irritante, agaçante, pour que le cadre ne soit pas étouffant, il faut que l'atmosphère globale de la famille soit l'encouragement. Pour que nos enfants grandissent bien en stature, en sagesse et en grâce comme Jésus, il faut qu'ils se sentent aimés pour ce qu'ils sont, sans condition, et qu'ils soient félicités pour ce qu'ils font de bien, et qu'ils soient encouragés pour tout ce qu'ils pourraient faire encore. L'enfant doit sentir que ses parents sont derrière lui, qu'ils sont même ses premiers fans, ses premiers supporters, ses inconditionnels, ses aficionados, comme on dit en espagnol, de afición, la pasión, ça veut dire la passion, le goût, la passion, un amateur fervent, c'est ça l'aficionados, des gens qui y croient. Et en France, on a besoin de développer cette atmosphère d'encouragement. J'ai eu un père hollandais qui était vraiment dans l'encouragement, une mère française qui l'était aussi, mais un peu moins. Alors, avec tous ces points, ces 9 premiers points-là, on pourrait se sentir découragé. Le titre, c'est « Éduquer sans décourager l'enfant », mais aussi, il y avait des petites parenthèses, « sans se décourager », parce que, voilà, qui est... Et vous pourriez vous poser la question, dans toute cette liste, quel est d'ailleurs votre point le plus difficile? Est-ce que c'est justement l'encouragement, l'amour inconditionnel, la confiance, l'exemple? Et puis, il y avait les 5 premiers points, les ne pas. Et on pourrait, devant toute cette liste, être saisi d'un grand soupir, pas tellement le soupir d'aise, mais plutôt le soupir de fatigue. Tout ça, la tâche est rude. Surtout avec la vie qui continue, le stress quotidien, les problèmes scolaires, les problèmes personnels, les problèmes du couple. Peut-être les problèmes de solitude pour les familles monoparentales, les problèmes de cohérence dans l'éducation pour les familles éclatées. Oui, c'est dur. La tâche est difficile et quand le prédicateur remet la pression, on pourrait être saisi d'affolement, voire d'angoisse. Et si je ratais l'éducation de mes enfants pour l'éternité. Et si c'est pour ça que j'ai rajouté, comme j'ai un 10e point, compter sur la grâce de Dieu. Nous sommes tous, et je l'ai dit au début, des enfants de Dieu positionnés en Jésus-Christ. Nous le sommes en tant que parents, en tant qu'enfants. Sous cette grâce, sous la grâce de Dieu, cette grâce manifestée en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection, libération de la culpabilité et de la peur, cette grâce qui continue à diffuser depuis lors et pour former comme une sorte de nuée protectrice, une atmosphère de grâce, un climat favorable, une atmosphère qui entoure nos familles, les enfants comme les parents. Nous sommes sous la grâce. Cela veut dire qu'il ne faut pas être saisi d'angoisse pour ce qu'on a raté ou pour ce qui nous paraît trop difficile à réaliser. Vivre sous la grâce et venir résolument s'y placer, cela signifie faire confiance en ce Dieu de grâce qui peut toujours intervenir dans les vies malgré nos faiblesses de parents et nos révoltes d'enfants. Dieu peut passer par-dessus nos erreurs de parcours. C'est le sens du mot Pâques, hein. Passer par-dessus. Le Dieu de la Pâque, du pardon, de la grâce, passe par-dessus pour intervenir d'une façon inattendue et imméritée. J'ai eu un professeur baptiste, Et oui, Robert Somerville, vous vous souvenez de lui, il y a quelques baptistes dans l'Assemblée, mais qui disait très bien, et ce qui suit, « L'enfant ne juge pas ses parents sur des cas isolés, mais sur un ensemble. Si les parents ont des failles, et c'est toujours le cas, l'enfant est aussi conscient d'une certaine cohérence. » J'aime bien ça. On est dans le long terme et on est dans cette atmosphère de grâce. Et cette phrase, à mon avis, relâche la pression autour de l'éducation. Et Robert Somerville était un prédicateur, même quand il était en cours d'éthique à la faculté de Vaux-sur-Seine, était un prédicateur de la grâce. Je l'ai beaucoup apprécié pour cela. Parce qu'on lit cette phrase et on se dit, ouf, on a droit à la faille. On a droit même aux faillites. On peut être pardonné tous les jours parce que ce qui compte, c'est l'ensemble. Et ce qui compte, c'est la grâce. Il y a de l'enjeu dans l'éducation des enfants, mais nous sommes sous la grâce. Parents, éduquez vos enfants sans les décourager. De grâce et sous la grâce. Amen.